Donc bonjour à tous et merci d'être présents pour cette deuxième séance donc, du séminaire BART cette année. Nous accueillons le bien connu Mathieu Messager, qui est concepteur et administrateur du site Roland Barthes, donc vous le connaissez tous, au moins par Internet. Il est doctorant à Paris 3. Il va soutenir en décembre une thèse sur les formes hétérodoxes de l'écriture savante chez Barthes et Quignard. Et il a écrit de nombreux articles sur Barthes et Quignard, dont parmi les derniers, l'usage des concepts à des fins romanesques, publié dans Clésis. Voilà. Et j'annonce tout de suite, dans le cas où j'oublierai la prochaine fois, que le prochain séminaire sera le 8 avril et nous accueillerons Thomas Vercruis de l'Université de Luxembourg pour une présentation sur Barthes et Valérie. Voilà. Donc je laisse la parole à Mathieu pour un exposé d'environ...
Pas trop long, j'espère.
Trois quarts d'heure, une heure, ouais. Il va vous donner le titre et... Introduction, merci beaucoup.
D'abord, oui, mais merci à Claude, Marie et Eric qui va peut-être arriver pour l'invitation. Merci à vous d'être là, malgré le soleil, pour donc écouter une conférence sur le geste encyclopédique de Roland Barthes. Je vais m'intéresser du coup à ce geste-là, décrit par Barthes, à ce geste nommé comme tel à la fin d'un cours au Collège de France qui s'appelle le « Comment vivre ensemble », que vous connaissez bien. À ce semblant d'esquisse, donc, encyclopédique, qui se donne tous les traits de la modestie, et non à l'encyclopédisme au sens strict et avec une majuscule. Je lis pour rappel et un peu pour cadrer les choses la citation à partir de laquelle est partie cette réflexion sur ce geste-là. Donc, c'est page 182 du « Comment vivre ensemble ». « À tout instant, j'ai dit, presque à chaque figure, nous ouvrons seulement un dossier. Ouvrir un dossier ». Acte encyclopédique par excellence. Diderot a ouvert tous les dossiers de son époque. Mais en ce temps, acte effectif, car le savoir pouvait être maîtrisé, sinon par un homme, comme du temps d'Aristote ou de Leibniz, du moins par une équipe. Aujourd'hui, plus d'exhaustivité possible du savoir, entièrement pluralisé, diffracté en langages incommunicants. L'acte encyclopédique n'est plus possible, confère l'échec des encyclopédies actuelles, mais le geste encyclopédique a pour moi sa valeur de fiction, sa jouissance, son scandale. Alors pourquoi cette question? Pourquoi se ressaisir de cette question du geste de l'encyclopédie chez Barthes? Parce que, à mon sens, en elle peut se lire un positionnement stratégique de Barthes par rapport à l'écriture du savoir. Bonjour. Et plus précisément, donc un nouveau rapport de Barthes au savoir via ce geste encyclopédique, plus précisément dans la séquence qui s'ouvre dans le second mouvement des années 60, peut-être à partir des années 64, on y reviendra, là où l'idée d'une mathésis, justement, d'une science généralisée, prend forme chez Barthes, et qu'il voudrait écrire non plus dans des formes savantes canoniques, comme des encyclopédies ou des essais en tant que tels, mais dans une forme pluriel, fictionnel de littérature, donc une mathésis d'ordre littéraire. Donc, pour moi, chez Barthes, le geste encyclopédique dit à la fois la nostalgie pour une certaine pratique totalisante des savoirs, dans laquelle Barthes, vous le savez, s'est souvent projeté. Je pense à Michelet, hein, première œuvre dans laquelle Barthes se projette, à Leibniz, qui revient très souvent comme une basse continue comme ça dans les cours au Collège de France, à Diderot, ou sur un versant plus proche du romantisme allemand, à l'absolu littéraire, qui sont des livres de la Somme, hein, des livres de l'encyclopédisme, ou alors le livre Somme, de type plus mallarméen. Donc il y a à la fois, dans l'idée de ce geste encyclopédique, cette nostalgie-là, Barthes veut reconduire un geste, et en même temps, ça ne reste qu'un geste, car il y a un nécessaire dépassement aux yeux de Barthes, une nécessaire ruine pour une conscience toute moderne qu'est celle de Barthes. Conscience moderne qui refuse les philosophies de l'appropriation et de la clôture, celles que fustigent notamment les mythologies, on y reviendra. Conscience moderne qui voit un monstre dans la totalité, c'est le dernier fragment du Roland Barthes par Roland Barthes, et conscience moderne qui se fonde surtout depuis, je dirais, le refus du système hegelien, auteur, s'il en est un, d'une encyclopédie, et notamment sa pratique dialectique. Alors pour cette question, je renvoie à l'ouvrage d'Éric Marty, « Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux ?» où il est montré avec beaucoup de précision comment la génération de ses penseurs des années 50, 60, Blanchot, Bataille, Barthes, Foucault et les autres, comment chez eux Sade a joué le rôle d'un dépassement, justement, d'Hegel par une forme de transgression. C'est donc un lieu de tension, ce geste encyclopédique, que Barthes va chercher à dénouer en jouant activement contre cette forme, en prenant le mot « contre » au deux sens du terme, en exhibant d'abord cette forme de l'encyclopédisme, en la mettant au principe de l'organisation de certains de ses livres. Rappelons-nous que les fragments d'un discours amoureux, par exemple, se présentent comme une encyclopédie de la culture affective, dit Barthes, de l'amoureux, et qu'il y a dans l'amoureux, reprécise Barthes, quelque chose de Bouvard et Pécuchet. Donc, il exhibe, mais tout en l'exhibant, Barthes va aussi, on le verra, chercher à révéler toute la dimension subversive à l'égard d'une monologie du savoir, pardon, en cherchant justement, dans la pluralisation des choses sues, la perturbation de toute épistémologie dernière, en bref, et ce sera mon point d'arrivée peut-être, en confiant au geste encyclopédique une dimension davantage soustractive, ruiniforme, plus que cumulative des savoirs. Ensuite, cette question, évidemment, me semble importante car elle possède une efficacité critique aujourd'hui pour comprendre certains aspects du champ littéraire français contemporain. Et cette conférence aujourd'hui est un post-scriptum, comme disait hier Éric Marty, peut-être par certains endroits, à la conférence que donnait hier Laurent Demanze sur les fictions encyclopédiques, sur l'imaginaire du savoir dans des formes de l'extrême contemporain en France. Séminaire à Paris 7 hier. Donc cette question chez Barthes va nous amener à ressaisir aussi certaines dynamiques dans le champ littéraire contemporain. C'est donc une manière d'inscrire Barthes dans l'actualité, dans le présent de notre littérature, en soulignant notamment, j'essaierai de le faire à la fin, des phénomènes d'écho de la pensée barthésienne chez toute une génération d'écrivains qui adoptent volontiers une posture érudite, une posture savante, ou qui ne cessent de mettre en scène l'imaginaire du savoir. Je songe plus précisément, je serai plus restrictif peut-être que Laurent Demanze, à une génération d'écrivains nés dans l'immédiat après-guerre, à partir des années 45 notamment, et qui ont été puissamment nourris de l'essor des sciences humaines. Cette génération que l'on a appelée la génération du cabinet des lettrés, en référence à une collection créée chez Gallimard par Patrick Moriès, et dans laquelle effectivement ont écrit beaucoup d'auteurs ayant un rapport au savoir, à l'encyclopédisme, à la somme, comme Pierre Michon, Patrick Moriès, Gérard Massé, et surtout Pascal Quignard, j'y viendrai à la fin de cet exposé. Donc génération qui rejoue ce geste encyclopédique que j'essaye d'indiquer chez Barthes, mais de façon consciemment, en tout cas hétérologique, en faisant du monument des savoirs le point de fuite peut-être de l'acte de pensée, ou en tout cas l'objet d'un dessaisissement, comme je le montrerai dans un quatrième temps. Donc voilà, je proposerai un parcours. Pas de plan, trois parties, un parcours. Première étape, je donnerai un aperçu de l'encyclopédisme chez Barthes. Hein. Ce serait de balayer la notion en montrant qu'elle est chez elle toujours une sorte d'épistémologie quelque part refoulée. Barthes tend vers l'encyclopédie, mais en même temps la met à distance, en permanence, ce depuis le début. Dans une deuxième étape, je concentrerai mon regard sur l'article nodal, évidemment, qui s'intitule « Les planches de l'encyclopédie ». Article de 1964, dans lequel j'essaie de montrer que, enfin, à partir duquel Barthes va changer de position par rapport à l'encyclopédie, je pense. Dans les années précédentes, il avait une vision très critique, très idéologique de l'encyclopédisme, et à partir des planches de l'encyclopédie, il commence à y voir les ferments potentiels d'une contre-encyclopédie depuis l'encyclopédie. Dans une troisième étape, je resterai sur cette année 64. En mettant en regard deux articles majeurs qui nous permettront de mieux comprendre cette appréciation renouvelée de l'encyclopédisme, donc l'article de Barthes, mais surtout son dialogue, conscient ou inconscient, avec Michel Foucault, qui, dans un article de 64, s'intéresse lui également à l'encyclopédie, à Bouvard et Pécuchet. Et dans une dernière étape, j'en viendrai au geste encyclopédique reconduit chez un auteur actuel, qui est Pascal Quignard. Donc quatre étapes. Donc l'encyclopédisme chez Barthes, je dirais pour commencer que la question a toujours été prise dans une contradiction chez lui. Depuis le début, depuis le Michelet par lui-même, et ce jusqu'à la préparation du roman, dernier cours au Collège de France. De l'œuvre inaugurale, donc, elle-même, on le sait, née d'une mise en fiche obsédée et quasi encyclopédique, Hein, il s'agit de mettre en fiche Michelet à travers un réseau, une grille de thèmes, jusqu'à l'œuvre terminale, projetant l'écriture d'un livre-somme, nous dit Barthes quand même dans la préparation du roman, se maintient en effet une appréciation de l'encyclopédie comme une sorte, je le disais, d'épistémologie refoulée. On la désire, on tend vers elle, mais en même temps, on ne veut plus vraiment l'assumer. On la considère comme une forme qui est en péremption et surtout une forme impossible pour une conscience moderne. Ainsi, pour pointer un peu ces points de contradiction, je note chez Barthes que, dès 1954, il pointe chez Michelet un rapport ambigu de l'historien à l'encyclopédisme. Il nous dit que chez lui, l'encyclopédisme est à la fois dénié, mais en même temps complètement constitutif de son imaginaire par piété pour un XVIIIe siècle qu'il admire. Barthes dit « Cette doctrine gnostique, selon laquelle toute connaissance ne peut découvrir son objet que grâce au sentiment, s'opposait surtout à la philosophie encyclopédiste. Et Michelet s'est trouvé pris dans une contradiction, d'une part louer sans réserve le XVIIIe siècle, d'autre part admettre que ces grands hommes, trop cérébraux, ont été incomplets. » Donc on voit bien la tension entre la complétude et l'incomplétude que pointe ici déjà Barthes. 35 ans plus tard, lors de son dernier cours au Collège de France, le fantasme de réaliser un livre qui serait la somme des savoirs, dit Barthes, revient, mais là encore, l'encyclopédie est comme mise à distance, à la place d'un imaginaire, actif, certes, pour lancer le geste de cette écriture totale, mais dépassé, en quelque sorte, par ce que Barthes appelle une écriture. Je cite encore, « Désir, à un moment de la vie, je ne décide pas lequel, ce n'est pas forcément la vieillesse, d'un livre où l'on va mettre tout, avec une majuscule, le tout de sa vie, de ses souffrances, de ses joies, et donc, bien sûr, le tout de son monde, et peut-être le tout du monde, somme de savoir, encyclopédie transcendée par un sens qu'on donne au monde et à son propre travail, c'est-à-dire, selon moi, par une écriture. » Donc, entre ces deux bornes chronologiques, on peut pointer d'autres lueurs, comme ça, de l'encyclopédisme chez Barthes. En parcourant assez rapidement les œuvres complètes, je ne m'attarderai pas trop, on se rend compte qu'à plusieurs reprises, en tout cas, Barthes a été amené à réfléchir à la forme de l'objet encyclopédique, que ce soit par des articles de fond où l'ambition du geste théorique va dépasser l'objet que Barthes se donne, comme, je pense, les planches de l'encyclopédie, ou alors dans des articles plus modestes, dans des publications plus modestes, qui souvent servent d'introduction à des ouvrages d'ordre didactique pardon, ou d'ordre encyclopédique, réflexion sur un manuel, ou les deux préfaces qui donnent à l'encyclopédie Bordas, le tome 8 et 9. Dans le Roland Barthes par Roland Barthes, autoportrait en écriture, Barthes revient aussi à certains endroits sur cette tentation, sur ce geste vers l'encyclopédie. Il dit que c'est une forme livre aimée, médiatrice de l'imaginaire de l'enfance. Et il l'évoque surtout dans le fragment intitulé « La tentation ethnologique », où Barthes perçoit chez lui, dans ses tics d'écriture, je dirais, tout un plaisir de classer et d'ordonnancer le réel de façon exhaustive, donc toute une gestuelle encyclopédique. Mais, comme toute gestuelle, comme toute tentation ethnologique, on voit bien que la forme reste ici encore à distance et fantasmée plus qu'effective. Plus systématiquement, Barthes remarque, et ça c'est dans le lexique de l'auteur, dans son écriture, une compulsion de dictionnaire, je cite Barthes. Alors, compulsion de dictionnaire, on pourra revenir, mais en tout cas, lui fait expérimenter des formes de savoir en réseau, c'est pour ça que ça l'intéresse, et aussi un goût prononcé de l'énumération, énumération qui, en saturant une topique, reconduit, dit Barthes, le mouvement euphorique de l'encyclopédie, car, je poursuis la citation, énumérer, c'est à la fois s'approprier et passer à autre chose, rencontrer et délaisser, c'est draguer le vocabulaire. Donc on voit bien, pour ce bref panorama, déjà deux enjeux majeurs, je pense, que l'encyclopédie ou l'encyclopédisme est investi, d'une part sur le plan théorique, la forme est réfléchie, mais aussi sur le versant formel, avec des tentatives de gestuelle encyclopédique, que ce soit la composition du Roland Barthes par Roland Barthes, les fragments d'un discours amoureux, ou d'autres, ou même les cours au Collège de France, qui sont des ouvertures de dossiers pluriels, comme il le dit à chaque fois. Donc la question encyclopédique recoupe en fait la question centrale des systèmes et des épistémologies de la totalité. À ce titre, elle constitue peut-être une plaque sensible où s'impriment les déplacements de Barthes dans ses rapports critiques à une discursivité scientifique et à des imaginaires du savoir. Et ces rapports sont mouvants, car si l'encyclopédisme, on va le voir, demeure disqualifié comme forme exemplaire d'une rationalité bourgeoise, hein, appropriative, intégrative, elle n'en reste pas moins porteuse, et c'est plutôt dans le second mouvement, après les planches de l'encyclopédie, elle n'en reste pas moins porteuse de potentialités subversives, dès lors justement que cette encyclopédie des savoirs peut être pratiquée à titre de farce, selon le modèle bien connu, on y reviendra, de Bouvard et Pécuchet, dans des registres décalés donc, qui reconduisent le geste, encore une fois, sans en assumer l'idéologie. Autant donc de manières de redynamiser l'encyclopédie, en misant davantage, et c'est ce que fera Barthes, en misant davantage sur son étymologie, l'étymologie du mot, hein, qui, autour de laquelle il va rêver, plus qu'à son idéologie. Il s'agit d'éparpiller le savoir, l'inscrire dans un grand tournoiement hétéroclite, dit Barthes, pour précisément en perturber la loi et la monosémie. En un mot, encore une fois, éprouver la négativité active d'une forme canonisée du savoir en la travestissant de l'intérieur. C'est vraiment ça qui va m'intéresser. Et cette dynamique à la fois active et négative rejoint par bien des aspects le programme méthodologique que Barthes se fixe à son entrée au Collège de France et qu'il qualifie du terme théologique d'apophatisme. À ce titre, à mon sens, l'encyclopédie ou l'encyclopédisme, si elle est pratiquée sous la forme d'un geste, c'est bien davantage pour circonscrire en quelque sorte les formes de son vide, comme le ferait la logique apophatique, plutôt que pour manifester la sérénité, je dirais, d'un savoir acquis et un savoir stable. Donc je reviendrai après ce bref parcours dans une deuxième étape, plus en détail, à ce pivot qu'incarne peut-être le texte sur les planches de l'encyclopédie en 1954. Mais bref, retour en arrière avant 54, montrer que cette perception de l'encyclopédisme était d'abord déniée, contestée. Je vais revenir justement sur la critique marxiste que Barthes peut en faire rapidement. C'est d'abord donc sous la forme historique que Barthes va être amené à appréhender l'encyclopédisme, en en déconstruisant l'idéologie et les mythologies en fait qui la sous-tendent. L'encyclopédisme est avant tout, pour Barthes, un trait d'époque, de plusieurs époques qu'il va pointer dans différentes mythologies, dans différents articles des années 50 et début 60. Celle de la rationalité triomphante, où tout est numérable, où la nature, réduite à sa qualité d'objet, maîtrisable, ne fait en fait qu'affirmer la présence de l'homme comme maître, possesseur et grand ordonnateur d'une pluralité diverse. La cible, à cette époque-là, est très clairement l'imaginaire proto-bourgeois ou bourgeois. Et le ton des articles de Barthes est celui marxiste, hein, donc de la critique des années 50. J'en veux pour exemple peut-être la mythologie qu'il consacre à Jules Verne, au Nautilus, où Barthes a un ton extrêmement violent, justement, à l'égard de ces fictions, qui sont des fictions de l'appropriation et qui reconnaissent le geste de la propriété. Verne, je cite donc Barthes, a été un maniaque de la plénitude. Il ne cessait de finir le monde et de le meubler, de le faire plein à la façon d'un œuf. Son mouvement est exactement celui d'un encyclopédiste du XVIIIe siècle ou d'un peintre hollandais. Le monde est fini, le monde est plein de matériaux numérables et contigus. L'artiste ne peut avoir d'autre tâche que de faire des catalogues, des inventaires, de pourchasser de petits coins vides pour y faire apparaître en rang serré les créations et les instruments humains. Donc cet extrait consacré au Nautilus noue en fait en faisceau différents ordres que Barthes va englober dans une vision encyclopédique un peu élargie. On se rend compte qu'on a trois temporalités qui jouent en concurrence. On a le positivisme bourgeois du XIXe siècle. On a aussi très présent la peinture hollandaise du XVIIe siècle et sa bourgeoisie marchande. Je renvoie un autre article qui s'intitule « Le monde objet », qui est une attaque de cette sorte d'encyclopédisme vraiment folle de l'objet. Et évidemment, la dernière époque qui est visée, c'est peut-être la rationalité totalisatrice du XVIIIe siècle, avec évidemment son encyclopédie en tant que telle, celle de Diderot. Donc à chaque fois, la vocation encyclopédique est épinglée, on le voit pour son idéologie de l'inventaire, pour sa pulsion manifeste de l'appropriation. Et à chaque fois, la critique est symbolisée par l'image du vaisseau, ou de l'œuf, de la plénitude. Le vaisseau, le bateau, revient à chaque fois dans chacun des articles. C'est le Nautilus, donc, chez Jules Verne. C'est l'Arche de Noé, dans les planches de l'encyclopédie. C'est le vaisseau hollandais, bien sûr, chez Michelet, cet œuf plein. Ce sont encore les marines hollandaises ou les navires qui sont comme des villes sur l'eau, dans l'article intitulé « Le monde objet » que je citais. Donc ça, c'est cette critique idéologique, peut-être des années 50, début 60, que Barthes va progressivement quitter. Il va quitter cette critique de la propriété, qui est peut-être un décalque évident à l'époque de l'essor d'une société de consommation dans les années 40-50. Et on sait que Barthes est assez proche des thèses d'Henri Lefebvre aussi à cette époque-là. Critique qu'il va quitter pour affronter de plein pied, je dirais, la critique même de la rationalité encyclopédiste, donc à travers l'article des planches de l'encyclopédie, et j'y viens maintenant. Donc c'est vraiment cet article, peut-être, qui tient lieu de pivot dans une appréciation renouvelée de la notion d'encyclopédie, où il va peut-être substituer à l'approche, il va substituer l'approche épistémologique à l'approche véritablement idéologique. Et ce qui m'intéresse dans cet article, je vais essayer de le montrer, c'est que Barthes va découvrir finalement dans l'hyperbole même de la raison, dans l'hyperbole rationaliste qu'incarne l'encyclopédie, les expédients possibles à la fin de son article de la contestation même de cette hypertrophie rationaliste. Essayer d'aller doucement, de lire cet article de près pour montrer un peu comment ça procède, comment fonctionne ce tour de force, finalement, comment le symbole même s'inverse en son contraire vers quelque chose qui est de l'ordre de la déraison, en fait. Le pivot est là. Comment on passe de la raison à la déraison? Donc, je vais relire l'article en détail. Comment Barthes y parvient? Peut-être, déjà, il y parvient en faisant un pas de côté intentionnel. C'est-à-dire qu'il va choisir de porter son regard et son analyse sur l'iconographie encyclopédiste, sur les planches, sur les images, qui représentent l'objet à des fins didactiques et illustratives, mais que le regard, déjà, peut investir d'enjeux plus gratuits. Barthes le dit immédiatement, le moderne peut investir ses planches, ses objets encyclopédiques, à partir de la rêverie, à partir de l'onirisme. C'est déjà une manière de se décaler aussi. Donc s'il revient au seuil de son article, encore une fois, à la problématique du monde-objet, le début de l'article est encore très contestataire face à une philosophie de l'objet, il n'empêche que progressivement, c'est dans une intention de saveur et non plus de savoir qu'il va envisager l'encyclopédie à travers son image. Le geste critique ne se place pas alors au cœur de la discursivité encyclopédique en tant que telle, il s'ancre à son rebord. Le geste critique de Barthes s'ancre à son rebord, sur son versant imaginaire, aux deux sens du terme, évidemment, sur l'imaginaire qu'a pu capitaliser à travers ses images tout un XVIIIe siècle, et évidemment sur les images concrètes des planches. Et cette position autorise à une lecture immédiatement moderne, précise Barthes, qui va être sensible à tous les phénomènes de réception et de distorsion que ne pouvaient pas prévoir les rédacteurs de l'encyclopédisme. Il le dit au début de l'article, je cite, « Tel est le système informatif de l'image encyclopédique. Cependant, l'information n'est pas close avec ce que l'image pouvait dire au lecteur de son époque. Le lecteur moderne reçoit lui aussi de cette image ancienne des informations que l'encyclopédiste ne pouvait prévoir. » Donc on voit bien le pas de côté très subtil. On rentre dans l'analyse du discours encyclopédique par l'image, on rentre par des distorsions et non plus dans la discursivité. Ce pas de côté est comme relayé à un second niveau par tout un usage ou un outillage conceptuel propre à la modernité, parce que Barthes va relire les planches de l'encyclopédie, vous le savez évidemment, à travers le système linguistique posé par Jacobson, avec le paradigme et le syntagme, ce qui va lui permettre vraiment de dépasser la clôture du système encyclopédique et ouvrir l'image bien au-delà des sens premiers. Alors il propose, je le dis dans un premier temps, une lecture dérivée de la lecture jacobsonienne du système linguistique. La planche se lit alors selon deux axes. Le premier, paradigmatique, je fais vite, le bas de la planche. Il faut imaginer la planche d'une encyclopédie, donc le bas de la planche, avec l'objet qui est saisi de manière neutre, hors contexte. Et l'autre, au-dessus, syntagmatique, c'est la vignette qui va illustrer l'objet, agi par l'homme et en contexte. De cette perspective linguistique, Barthes infère la possibilité d'une lecture de l'image qui va finalement résister au sens et qui va perturber le didactisme peut-être un peu naïf voulu par les encyclopédistes, pourtant affiché dans la planche. Il va proposer une lecture justement qui va vouloir diluer cette intention savante. Je lis encore un extrait pour bien faire comprendre cela. On voit par là combien finalement le didactisme de l'encyclopédie est ambigu. Très fort dans la partie inférieure, paradigmatique de la planche, il se dilue à son niveau syntagmatique, rejoint sans se perdre vraiment ce qu'il faut bien appeler la vérité romanesque de toute action humaine. À son étage démonstratif, la planche encyclopédique constitue une langue radicale, faite de purs concepts, sans mots-outils ni syntaxe. À l'étage supérieur, cette langue radicale devient langue humaine. Elle perd volontairement en intelligible ce qu'elle gagne en vécu. Donc on voit bien qu'on a approximativement une perturbation de la logique conceptuelle, perturbation de l'intelligible. Ce double étagement de l'image engage plus profondément encore, et c'est le mot que je trouve central ici, une contestation indirecte, surtout de la raison dialectique. Le mot va être central pour Barthes et il va s'y attacher. En effet, le sens de lecture inconsciemment préconisé par l'encyclopédiste est un sens qui recompose en fait le cheminement logique de la raison humaine. On parcourt le trajet de l'objet depuis sa matière éparse jusqu'à son produit fini. C'est le sens que veut nous faire suivre l'encyclopédiste. Or, ce caractère logique peut avoir un autre modèle si on s'adonne à une rêverie qui va contester ce sens à cette lecture à sens unique. Barthes dit « Ce caractère logique de l'image a un autre modèle, celui de la dialectique. » Donc là, il reste encore à l'idée de la dialectique et de la raison. « L'image analyse, énumère d'abord les éléments et part de l'objet, puis les recompose, leur adjoignant même pour finir l'épaisseur de la scène, c'est-à-dire de la vie. Le montage encyclopédique est fondé en raison. » Mais contrairement à l'obligation linéaire, et Barthes s'intéresse justement à ça, contrairement à cette obligation linéaire de lecture, l'image n'est soumise à aucun vecteur logique, nous dit Barthes. C'est ce qu'il s'emploie à démontrer après. C'est donc, pour lui, un précieux avantage qui permet d'engager la lecture dans un processus complètement circulaire, qui va déjouer cette monovalence, ce sens-là, allant indifféremment de haut en bas ou de bas en haut, et dont le luxe, terme qu'emploie Barthes, éminemment moderne, proche de Bataille, dont le luxe consiste précisément à déjouer l'injonction dialectique qui cherche à reconduire une vérité à sens unique. Voilà donc la contestation de premier niveau, je fais vite. L'encyclopédie porte paradoxalement en elle une critique de la raison dialectique. Dans un deuxième temps, Barthes va aller plus loin, et je vais en finir avec cette lecture rapprochée des planches d'encyclopédie. Barthes va poursuivre son analyse de l'image, toujours encyclopédique, en réclamant sa démarche, la démarche poétique. Et il donne une vision très très élargie de la poétique. Il dit, si l'on accepte de définir par poétique, avec une majuscule, la poétique, il dit, comme la sphère des vibrations infinies du sens, au centre de laquelle est placé l'objet littéral. Donc ce second moment lui permet explicitement d'ouvrir l'image, hein, si on le suit, d'ouvrir l'image vers un sens nouveau, toujours en devenir et jamais arrêté à un signifié dernier. Ce travail de mise en vibration de l'objet est rendu possible par tous les effets de coupe, de vue en réduction, de zoom sur l'image, qui ne cessent en fait de disproportionner et de renverser la planche du côté du surnaturel et de l'irréel. C'est ce qui va vraiment intéresser Barthes. Ainsi, il prend un moment l'exemple de la puce, hein, la puce tout simplement, sur laquelle il y a des effets de zoom qui ne cessent d'être agrandis, coupés, et à ses yeux, cet objet bas, sordide, se transforme par une rêverie imaginaire en quelque chose de surnaturel, en un dragon avec des cornes acérées, etc. Et ainsi de tous les objets qu'il investit visuellement comme de monstres logiques. Donc c'est là le paradoxe final que cherche à affirmer Barthes à l'endroit de l'encyclopédie, et qui fait qu'elle demeure pour lui, qu'elle va demeurer pour lui porteuse d'une profonde subversion, qui touche donc en son principe final à la rationalité humaine. Je cite le dernier passage qui est central, qui permet de comprendre cet effet de bascule, et tous les mots sont à mon sens importants. Dans son ordre même, décrit ici sous les espèces du syntagme et du paradigme, de la vignette et du bas de page, la planche encyclopédique accomplit ce risque de la raison. D'une manière générale, l'encyclopédie est fascinée à force de raison par l'envers des choses. Elle coupe, elle ampute, elle est vide, elle tourne, elle veut passer derrière la nature. Or, tout envers est troublant, science et parascience sont mêlées, surtout au niveau de l'image. Donc on voit, je me répète un peu, qu'au terme de cette analyse, on perçoit un peu mieux toute la logique d'inversion, hein, qui sous-tend l'article de Barthes, L'hyperbole rationaliste, je le disais, à force de raison, hein, dit Barthes, se porte elle-même à sa limite et expérimente, dans la forme même du langage encyclopédique, le risque donc de la raison. Voilà la contestation de second niveau, centrale. L'encyclopédie regardée de très près et presque avec un regard myope, à ras du sol des images, si on veut, signale donc le lieu pivot où la raison va se renverser en déraison. Et c'est là que je ferai évidemment le rapprochement dans un troisième moment entre Barthes et Foucault, qui, la même année, 1964, signe un article intitulé « Un fantastique de bibliothèque », donc c'est mon troisième parcours, « Un fantastique de bibliothèque, Barthes, Foucault et l'année 1964 ». Donc ce cheminement, je résume un peu, précisément un rebours des intentions premières de l'encyclopédie, est ce qui rend possible, désormais, aux yeux de Barthes, un retour actif au geste encyclopédique. C'est plus quelque chose qu'on peut dénier sous couvert d'une idéologie un petit peu trop appropriative. Dès lors qu'une forme exemplaire de systématisation du savoir s'avère porteuse d'une contestation à l'endroit de ce même savoir, ou du moins à ce qui en régule le grand ordonnancement, il devient loisible d'en user pour Barthes. Et fort de cet acquis, Barthes ne va plus du tout cacher sa sympathie pour un usage sciemment décalé de l'encyclopédisme, dont les figures tutélaires et parodiques, trop bien connues, sont Bouvard et Pécuchet. Il le dit dans un article au titre éloquent, intitulé « La crise de la vérité ». Il aime aussi, dans l'encyclopédisme, la mise en crise possible de la vérité. Il joue toujours sur le même paradoxe. Et il précise, et c'est là que je vais faire le lien avec Foucault, « Les encyclopédies du XVIIIe siècle, du XIXe siècle et même du XXe siècle sont des encyclopédies du savoir ou des savoirs. Or, au milieu de cette histoire, il y a un moment Flaubert, un moment Bouvard et Pécuchet, qui est le moment farce. L'encyclopédie y est prise comme une dérision, une farce. Mais cette farce s'accompagne en sous-main de quelque chose de très sérieux. Aux encyclopédies de savoir succède une encyclopédie des langages. Ce que Flaubert enregistre et repère dans Bouvard et Pécuchet, ce sont des langages. » Donc ce repérage par Flaubert d'une discursivité scientifique, des parlures en fait de la science, et non plus seulement des vérités mises en avant par la science, signe pour Barthes la possibilité d'une entrée stratégiquement donc soustractive dans la forme traditionnellement cumulative du savoir. Il y a là une déconstruction habile de la rhétorique depuis laquelle le savoir pouvait affirmer sa domination et que, dès lors qu'on a compris ce moment farce, on va pouvoir tenter de ruiner. En juxtaposant tous les savoirs, en les essayant tour à tour dans un grand tournement vertigineux, les deux copistes que sont Bouvard et Pécuchet ne font en fait qu'annoncer la grande thèse de la modernité selon laquelle il ne saurait plus y avoir de métalangage, ou pour le faire à l'inverse de Lacan comme le fait Barthes, ou au contraire tout est métalangage. Tout est langage sur langage, donc il n'y a pas de finalité dernière, il n'y a plus de signifié dernier, qui viendrait légitimer un projet de savoir téléologique. C'est là, évidemment, le point d'entrée de Foucault, également, dans Bouvard et Pécuchet, la même année. Donc, c'est en 64 qu'il publie son article sur Flaubert, dans lequel lui aussi engage une réflexion profonde sur le savoir et l'imaginaire, sur la bibliothèque et les songes. Intitulé « Postface à Flaubert », avant de prendre pour titre, en 67, un fantastique de bibliothèque, Foucault entend, lui, repérer dans la tentation de Saint-Antoine un moment clé de l'imaginaire occidental. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il y a un moment où Flaubert, et avec lui peut-être une grande partie de la modernité à venir, fait l'expérience, dit Foucault, d'un fantastique singulièrement moderne. Car il dit que dans ce livre, dans la tentation de Saint-Antoine, livre patiemment compilé depuis des pans entiers de la bibliothèque, depuis des compulsions infinies d'encyclopédie. Dans ce livre, finalement, ce qui s'annonce, c'est que la déraison et l'imaginaire puisent, non pas de manière naïve dans une propre imagination qui s'auto-engendrerait, mais la déraison puise à l'exact endroit de la raison, c'est-à-dire dans le livre, dans le savoir et dans l'encyclopédisme. Je cite Foucault, qui écrit toujours très bien, « Ce lieu nouveau des fantasmes, ce n'est plus la nuit, le sommeil de la raison, le vide incertain ouvert devant le désir, c'est au contraire la veille, l'attention à la sable, le zèle érudit, l'attention aux aguets. Le chimérique, désormais, naît de la surface noire et blanc des signes imprimés, du volume fermé et poussiéreux qui s'ouvre sur un envol de mots oubliés. On voit bien, par un cheminement différent, qu'on a un constat exactement parallèle à celui de Barthes. C'est bien depuis le cœur même de la raison triomphante, depuis ce grand rêve encyclopédiste qui est à l'origine du geste de l'écriture du Flaubert, que peut se traquer les formes peut-être les plus aiguës de la déraison, ce que nous a montré tout à l'heure la fin de l'analyse des planches de l'encyclopédie. À l'instar de Barthes, Foucault voit même, comme lui, dans les objets, à l'instar de Barthes qui voyait dans les objets représentant les planches de l'encyclopédie des départs en direction de rêveries monstrueuses, Barthes dit, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais les objets sont des monstres anatomiques, par exemple, ou des monstres surréalistes, ou encore des objets immenses et incompréhensibles. Foucault traque exactement de la même manière, dans les ouvrages compulsés par Flaubert, les traditions tératologiques, les mémoires ecclésiastiques, la patrologie, la théologie chrétienne, chaque ouvrage qu'a pu compulser Flaubert. Il traque les chimères qui deviendront les tentatrices de Saint-Antoine. Donc ce même mouvement vers le chimérique, vers le surnaturel. Et c'est d'ailleurs à partir d'autres planches en sous-main, d'autres illustrations, d'autres vignettes, celle de l'ouvrage de Kreuzer, les religions de l'Antiquité, que Foucault cherche, faisant son travail sur Flaubert, cherche aussi le foyer brûlant où l'imaginaire et la folie imaginaire de Flaubert ont pu prendre naissance. Donc il cherche finalement aussi dans le didactisme illustratif d'autres planches, ce qu'il appelle les formes de l'onirisme érudit. La symétrie avec Barthes, je termine là-dessus, est encore plus frappante si l'on considère le titre initial de l'article de Barthes, qui s'intitule « Les planches de l'encyclopédie », je l'ai dit tout à l'heure, mais l'article initial, le titre plutôt de l'article initial, c'est bien « Image, raison des raisons », on en parlait un petit peu hier, qui est dans une gradation et dans une contemporanéité très étonnamment foucauldienne, avec ce même pivot entre l'image, la raison et le déraison. Mais il y a plus, parce que Foucault n'en reste pas non plus à la tentation de Saint-Antoine, car tout la fin de son article s'intéresse justement à Bouvard et Picuchet. Sa réflexion le conduit jusqu'à ce double, ce qu'il appelle le double grotesque et à la fois démesuré de la tentation de Saint-Antoine, qui est Bouvard et Picuchet. Donc, nouveau point de rapprochement entre les différents penseurs sur l'encyclopédisme. Ce qu'il distingue, comme Barthes, je le disais, c'est la dimension grotesque de l'entreprise. Barthes parle de farce, plutôt, on l'a vu à d'autres endroits, de comédie ou de carnaval du savoir. Mais ce grotesque n'est jamais réductible, pour Foucault, à une forme mineure, décalée ou émerveillée et naïve de l'encyclopédie. Au contraire, il y a un très grand sérieux aussi dans la perception que fait Foucault de l'encyclopédisme et des deux copistes. Sérieux, dont parlait justement Barthes, comme j'ai cité plus haut. Alors ce sérieux, lui, il le voit dans le mouvement infini de la copie qu'il va gloser dans une sorte de métaphysique du vide absolument impressionnante par rapport au ridicule un peu prosaïque des deux copistes. Il nous dit que l'acte de copier signe à ses yeux un repli triomphal dans le discours. Il est question d'un triomphe, déjà, et non pas d'un dessaisissement absurde. Repli triomphal dans le discours, dans la rumeur infinie des mots qui enveloppe le sujet en l'innocentant de toute prise de position. Foucault y voit ça. Il marque peut-être un désengagement profond hors du sens, l'acte de copier, marque un profond désengagement hors du sens, où finalement, c'est un rien-faire quasi mystique qui l'emporte. C'est un rien-faire, le mot intervient chez Foucault, qui me fait penser évidemment au rien-faire philosophique barthésien, ou à cet espace du neutre qui peut être valorisé en tant que rien actif aussi. Où la finitude du corps, où la finitude et le corps du copiste s'échangent à une forme libre infiniment étale. Ça, le mouvement de glose de Foucault conduit à cela. Il dit « copier, c'est ne rien faire. C'est être les livres qu'on copie. C'est être cette infime distension du langage qui se redouble. C'est être le pli du discours sur lui-même. C'est être cette existence invisible qui transforme la parole passagère dans l'infini de la rumeur. Bouvard et Pécuchet triomphent de tout ce qui est étranger au livre et lui résistent en devenant eux-mêmes le mouvement contigu du livre. Le livre ouvert par Saint-Antoine où se sont envolées toutes les tentations, les deux bonhommes le prolongent sans terme, sans chimère, sans gourmandise, sans péché, sans désir. Moins une sorte de, d'éteinte de la raison, mais qui est englobée dans un geste, je disais quasi métaphysique, où le vide a en tout cas valeur active ici. Et donc, on le voit bien que c'est bien aussi ici cette renaissance infinie du langage qui fascine Foucault, cette absence infinie de métalangage et qui était également le cœur de l'analyse de Barthes. Donc, je m'arrête là avec ce bord-à-bord Foucault-Barthes pour montrer comment ces formes, finalement, qui investissent le vide de l'encyclopédisme, le vide du savoir, peuvent être ressaisies aujourd'hui chez toute une génération de penseurs et d'écrivains. Et je vais m'intéresser plus en détail au cas Pascal Quignard qui, indirectement, même s'il n'y a pas d'héritage affiché, ou si les héritages chez lui s'antidatent de manière stratégique, est un écrivain nourri de cette période-là, très grand lecteur évidemment de Foucault, de Barthes et de toute cette génération-là. Donc, petit encart sur l'encyclomanie dans la littérature française contemporaine pour mener justement à Quignard. On voit qu'elle est diagnostiquée, cette encyclomanie est promue par des gens comme Barthes et Foucault à la fin des années 60. Et on voit aujourd'hui que ce retour en farce de l'encyclopédisme connaît évidemment une forte actualité dans le champ de la littérature contemporaine. On assiste, en effet, c'est ce que montrent des études comme Tiphaine Samoyo qui parle de Lynn, Bouvard et Pécuchet, c'est ce que montre Nathalie Pierre-Grégo dans l'érudition imaginaire, et évidemment de manière plus systématique Laurent Demanse dans les fictions encyclopédiques. On assiste, les choses sont assez balisées, à un dialogue renouvelé sous des formes souvent carnavalesques entre donc la littérature et la pluralité des savoirs. Alors je pense qu'il est difficile d'homogénéiser des parcours d'écriture. Peut-être c'était ce qu'on disait hier, c'était peut-être une tendance un peu trop générale à mettre tous les écrivains sur le même pied dans leur rapport à l'érudition. Il est à mon sens difficile d'homogénéiser parce qu'il y a des pratiques qui demeurent irréductibles à d'autres. Mais en tout cas, je m'accorde avec Laurent Demanse pour voir un geste polymorphe de l'encyclomanie à différents niveaux, à différentes échelles, ça c'est sûr. Et dans ce souci commun de mettre en mouvement les savoirs dans l'espace de la fiction, mais pas que, je pense qu'il y a un espace essayiste qui se ressaisit aussi dans une encyclomanie. Et je suis pour la défense d'un Quignard essayiste et non pas simplement écrivain fictionnaliste. Il y a une ressaisie donc, du geste encyclopédique selon deux pulsions contradictoires qui recoupent plus ou moins les pulsions barthésiennes que j'essayais de mettre en avant au début. D'une part, c'est assez net. Le geste qui tend vers les savoirs, vers l'exhaustivité du savoir, manifeste en creux en fait une certaine nostalgie quelque part pour le système des belles lettres ou pour l'homme de lettres 18e, qui pouvait encore prétendre, avant l'éclosion des sciences spécialisées au 19e, à la maîtrise de tous les savoirs. Il en va, je pense, d'une certaine nostalgie qui mine un peu ce geste. Mais d'autre part, évidemment, le geste n'est pas naïvement nostalgique, il entend miner ou mener une interrogation critique des épistémologies instituées et donc d'instaurer par un jeu pluriel des savoirs qu'il juxtapose, pastiche ou moque, mettre en scène le savoir au risque justement de la raison et de la pensée. C'est ça qui m'intéresse. Donc je prendrai pour exemple, pour éclairer et illustrer un peu quelque chose qui paraît pas trop abstrait peut-être, le plus ou un des plus encyclopédistes de nos écrivains contemporains, qui depuis 25 ans pratique d'ailleurs des formes d'écriture qui déclinent sous forme de vastes tomaisons, où le savoir cherche à se récapituler, sans pour autant qu'il ne prenne la pause. Un écrivain nourri de la génération théorique, dont on parlait, donc un écrivain qui a eu 18 ans en 1966, année-lumière des années théoriques, et qui cherche justement à porter l'essai sur le versant de l'hétérologie, dans une dynamique assez proche finalement d'un Barthes, ou je dirais d'un Barthes s'inspirant d'un Bataille. La généalogie fonctionne peut-être à plusieurs niveaux ici. Donc cet écrivain Pascal Quignard, voici ce qu'il dit, par exemple, des 9 tomes qui composent pour le moment son dernier royaume, une œuvre en cours qu'il décline sous forme de tomes, qu'il dit infini, et là on en est au 9e tome, donc quelques 4000 pages pour le moment. Il dit « Cet ensemble divergent, entassé et désordonné comme les épaves au bout de la jetée, bien qu'il soit encore encyclopédique par sa curiosité, n'appartient plus à l'âge des Lumières. Cet ensemble est sans lumière, le 20e siècle est passé. » Bon, bien sûr, il y a tout un effet de posture très quignardien, très crépusculaire. On se drape finalement dans les ruines de Port-Royal pour décrire son geste d'écriture. Mais quand on y regarde de plus près, il y a une intention beaucoup plus critique dans cette absence de lumière propre à son encyclopédisme. On peut dire qu'en effet, en tout cas d'une somme à l'autre, première somme de Pascal Quignard, les années 90, des petits traités, qui étaient une dizaine de petits livres sous forme savante, qui faisaient la récapitulation des savoirs d'ordre plutôt linguistique et grammaticaux à l'époque. Et depuis les années 2000, Dernier Royaume, où là, l'encyclopédie prend un sens beaucoup plus élargi, parce que, je vais vous le montrer, il reparcourt les bibliothèques, mais toutes les bibliothèques, hein, c'est-à-dire des sciences de la botanique jusqu'à la dissertation d'ordre philosophique, jusqu'à l'anthropologie, etc. Donc il est évident que les deux grands ensembles quignardiens jouent, ne serait-ce que de façon oblique, avec cet héritage de la forme encyclopédique. Dans les travées du savoir livresque, que chaque tome nous engage à traverser, une traversée, il y a comme une volonté récapitulative. L'encyclomanie de l'écrivain se manifeste autant dans les masses importantes de savoir déplacés que dans la forme très matérielle qui les organise. Alors ce sont d'abord des pans entiers de la bibliothèque occidentale que l'auteur donne à lire par coupes successives. J'en donne un bref aperçu pour qu'on s'en rende compte. Les strates les plus visibles pour un lecteur de Pascal Quignard constituent de larges ensembles chronologiques, en fait. Il y a bien évidemment, pour tout connaisseur de Quignard, même si vous avez lu, je dirais, 10-15 pages, vous avez pu vous rendre compte qu'il y a l'antiquité gréco-latine, donc les mythologies, son histoire, sa religion, sa philosophie, sa physique, sa littérature, le Moyen-Âge très présent chez Quignard pour une grande part, un Moyen-Âge réécrit depuis la légende dorée de Jacques de Voragine, et donc toute la bibliothèque chrétienne afférente, à géographie, mystique, théologien, patron de l'Église. La Renaissance, souvent picturale, chez Pascal Quignard, il y a beaucoup d'ekphrasis, beaucoup de vie de peintre. Un très large aussi, c'est l'autre pan quignardien, un très large XVIIe siècle, les musiciens baroques, les historiographes, les anecdotiers, les jansénistes, et évidemment la modernité, beaucoup plus théorique que littéraire. Quignard cite très peu finalement ses contemporains ou la génération qui lui est immédiatement précédente, mais il le cite sur un pendant du savoir, donc de l'encyclopédisme, les anthropologues, les philosophes, les linguistes, les psychanalystes, les écologistes, etc. En amont et en aval de ces savoirs déposés dans le creuset des livres, il y a plus, je dirais, car Dernier Royaume, cet ensemble, se montre aussi de plus en plus inspiré par une pensée d'un certain continuum entre les espèces. Donc là, il y a chez Quignard la volonté d'épouser un autre grand encyclopédisme hétérologique qui était Georges Bataille, qui, à travers sa somme athéologique, parlait aussi de continu entre les registres de savoir qui essaient de mettre au même niveau. Donc ce continu qu'on discerne alors quelques lueurs vives où Quignard va croiser différentes sphères scientifiques qui sont en dehors des sciences humaines, telles que la biologie, la géologie, la génétique, l'anthropologie, etc. Il y a du Lartet, du Leroy Gourhan, du Moscovici, du Lamarck, du Liel, du Linné, etc., etc. Mais, donc ça c'est pour l'aperçu, ce qui est intéressant, c'est l'architecture même du livre. C'est par là qu'on va rentrer peut-être dans la façon dont Quignard est critique par rapport au geste encyclopédique. Dans l'architecture même de son livre « Dernier Royaume », il y a Singer, ou comme Singer, le grand rêve encyclopédique. À la vaste maison, où chaque unité fait varier un même thème, répond en fait un chapitrage aussi au titre volontairement décalé ou volontairement daté, par lequel l'ensemble se rattache à des formes, je dirais, intentionnellement périmées d'exposition du savoir. Il n'est qu'à constater, si vous prenez la table des matières, de constater l'usage massif que fait Quignard, par exemple, du « dé » latin, hein, « dé antiquissima », etc., pour donner des amorces de chapitres, ou alors de la préposition « sur quelque chose d'autre », qui pluralise en fait indéfiniment les objets que l'auteur se propose de traiter. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer quelques titres. « Sur la joie foudroyante »,« Sur le petit Orient », »,« Sur le mot grec aorista », ou en latin, « De vita beata »,« De situ terrae sanctae »,« De similitudine carnis »,« De antiquissima », etc., etc. Au final, c'est donc bien sans ambiguïté apparente que le lettré de Dernier Royaume se portraiture sous la figure de l'encyclopédiste. Il le dit d'ailleurs au cœur même de « Sur le jadis », qui est au mi-temps de la Somme, il dit, je cite, « Ce que je suis en train d'écrire, suivez, parce que je vais analyser chacun des mots, après, justement pour déconstruire cette posture d'auteur, enfin, qui intentionnellement, il le fait lui-même. « Ce que je suis en train d'écrire compte parmi les dernières pattes de mouche atomisons intermittentes d'une encyclopédie elle-même à usage privé. Un des derniers livres de raison du royaume, arrangé dans le tiroir de droite du buffet d'un vieux lettré qui prit la décision de se perdre dans sa province parce qu'il ne comprenait rien de rien à ce monde. » On voit bien que la forme même de l'aveu est très posturale et finalement très ironique. Et je pense qu'il y a un humour quignardien que la plupart de ses détracteurs ne voient pas. Quand il ne voit chez lui qu'une pose lettrée et une pose savante, je pense à un des derniers articles qui était dans, je ne sais plus où, chez Marianne, où qui était à propos du critique du jugement, qui voyait la posture lettrée savante en ne voyant pas en fait tous les de la manière dont il pulvérise en fait cette posture intentionnellement. Dans la forme même de l'aveu qu'il en donne ici, on voit bien que Quignard annule tout ce que son encyclopédisme pourrait en fait avoir de prestigieux et de glorieux et d'universel. À rebours des représentations canoniques du genre, il mise en fait sur une ambition ici aussi soustractive de l'encyclopédisme. Non sans humour, elle est gagnée par une humilité quasi régressive, je trouve ici, qui renverse la somme du côté du minuscule et du marginal en accentuant une représentation de soi qui est complètement périphérique, sinon provinciale, du savoir. Il dit que c'est une écriture en patte de mouche, donc ce n'est pas non plus une prétention extrême, quasiment une dilution du geste, à usage privé, qui n'a pas la vocation justement pédagogique, universelle de l'encyclopédisme, un livre de raison qui renvoie à des formes datées, ordinaires, quotidiennes, de notation de ses jours, de ses dépenses dans une logique protestante, un livre de raison à ranger dans un buffet, et non sous la vitrine d'une bibliothèque, vous aurez noté, et dans une maison de province, et pas dans un appartement doré du centre de Paris. Donc la minoration de l'objet livre encyclopédique se fait ici par des références constantes, en fait, à des formes faibles de capitalisation du savoir. Ce sont à chaque fois des formes d'enregistrement plus que de démonstration. Le livre de raison, je viens de le dire, avec tout ce qu'il draine d'ordinaire et de familier. Mais ailleurs, cette confession, je l'ai dit aussi tout à l'heure, confession qui assimile l'écriture de Dernier Royaume à un De Antiquissima, donc un Dernier Royaume qui est de l'ordre du côté des antiquaires, des oripeaux, plutôt que de l'historien qui ferait des catalogues beaucoup plus raisonnés. Donc on touche là, je pense, à une poétique du petit registre ou de la liste qui valent en fait comme autant d'incisions dans les grandes pages constituées ou instituées du savoir. Ce qui fascine Quignard, au contraire, et c'est là qu'il est dans un geste bataillien, c'est la légende noire des rebuts, les sordides, les laissés pour compte, les traces prélevées sur les corps des vies obscures, les anecdotes attestées, retenues pour leur grisaille mate et ordinaire, un peu de cette vie des hommes infâmes que voulait écrire Foucault. Donc là aussi, il y a une continuité du geste qui est très claire. Dernier Royaume, donc, est avant tout l'encyclopédie des savoirs infâmes, arrachée aux pages des savoirs les plus fameux. De là aussi, et bon, il faudrait le temps, mais là j'ai fini, hein, je vais vous laisser tranquille. De là aussi, peut-être, toutes ces formes de redoublement, en fait, du geste compilatoire. Quignard fait des recollections de collections déjà existantes. Il fait une encyclopédie des encyclopédies déjà existantes, des recueils de recueils. Il ne fait, en fait, que démembrer une encyclopédie qui serait déjà en voie de solidification. Et donc, il cherche à pulvériser. Ses préférences vont aux annas, aux anecdotiers, aux historiographes, aux archives judiciaires, donc geste foucaldien, je disais, au recueil des Vitae, aux ensembles mythologiques, etc. En plus, je dirais qu'à cette poétique de la brisure des cercles institués du savoir, s'ajoute, à un second degré, la volonté manifeste d'évider les ordres même que le savoir consacre. C'est-à-dire que les légendes, à chaque fois, enfin les vies légendaires de la légende dorée, sont toujours reversées du côté de vies obscures, de vies faibles, sans véritablement d'épaisseur. Tandis que les infâmes des archives, qu'il relève et révèle, s'éclairent peu à peu d'une irradiation autonome. Il y a un effet d'asymétrie aussi volontaire dans les objets de savoir qu'il dispose devant son lecteur. Donc on a véritablement une pesée ruiniforme sur le savoir, c'est ça que je veux dire, qui guide en secret l'obsession cumulative de ce dernier royaume. Et en lisant bien Quignard de près, on voit qu'il y a des allusions à cette fascination qui était barthésienne et foucauldienne pour les formes du vide au cœur même du savoir. Quignard dit, je le cite, « Aller du vide au plein, aller du plein au vide. Il est possible de faire d'un délire un jeu et de fouiller l'étude jusqu'aux ruines. » Donc on note l'aspect uniforme, évidemment. « Il est possible de faire d'un mauvais symptôme un dernier royaume, d'un délire un relire. » Enfin, donc, on voit bien que le point de bascule de l'encyclopédie quignardienne s'annule aussi en son contraire, le vide, l'aphasie, l'agraphie. Et c'est véritablement, je pense, qui aimante plus que tout la curiosité de Pascal Quignard. On pourra peut-être y revenir dans la discussion. Mais c'est ces lieux de perdition du savoir, de perdition de la pensée. Le dernier tome s'intitule « Mourir de pensée », ce n'est pas anecdotique. Et donc, il n'est pas anodin, ce sera ma dernière citation, il n'est pas anodin qu'à l'instar de Barthes, fasciné par le tournoiement avide des formes du langage, ou à l'instar d'un Foucault attiré par l'anéantissement, au sens premier, des deux copistes, Quignard inscrive comme un symbole, au cœur de son dernier royaume, la dépression, toute symbolique, de saint Thomas, interrompant le livre majuscule, la somme par excellence, la somme théologique. Ce qu'il y cherche, donc, c'est vraiment une fascination pour l'affaissement des savoirs, là où quelque chose défaille, déraille, à travers même les formes de capitalisation du savoir. Et c'est ce moment de dépressurisation où le plein s'ouvre sur le vide que fascine Quignard. Donc je vous lis, et c'est une conclusion, il n'y aura pas de conclusion, je vous lis juste cet dernier extrait de Pascal Quignard où est décrite la dépression de saint Thomas dans « Mourir de pensée ». « Je ne peux plus, » dit saint Thomas. Quignard reprend. « La seule chose qu'il est ajoutée plus tard, c'est de la paille. Mais il faut traduire, c'est comme de la paille, car Thomas d'Aquin a dit en latin « sicut palea ». C'est ainsi qu'au cours même de la crise dépressive, le plus grand théologien qu'ait connu l'Église a encore le courage d'une ultime métaphore. La culture conçue comme quelque chose qui ne vaut rien, comme un pauvre végétal desséché, comme du foin. La bibliothèque qui l'entoure est considérée par lui comme une poignée de paille. Puis, il ne parle plus, il laisse inachevée la somme théologique. Merci. Merci.